Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouvel épisode de La Chose Commune, l'émission dédiée au développement durable et à l'environnement de Studio ZEF. Cette semaine, nous nous intéressons à une appellation d'un espace naturel, de plusieurs espaces naturels. On va voir ce que ce terme recouvre exactement. Nous allons évoquer le sujet des espaces naturels sensibles qui sont pilotés et gérés entre autres par le conseil départemental. Pour cette émission, je reçois Dimitri Multo. Bonjour Dimitri.
Bonjour.
Vous êtes au conseil départemental. Quelle est votre fonction et votre rapport avec les ENS?
Oui, en effet, je travaille donc au conseil départemental de Loire-et-Cher. Je suis responsable du pôle patrimoine naturel, pardon, et donc spécifiquement sur la politique des espaces naturels sensibles. Hein, on va plutôt les appeler les ENS, hein, c'est l'acronyme qu'on utilise. Voilà, donc tout ce qui est pilotage de cette politique sur l'ensemble du département.
Merci. Je suis également accompagné donc d'Emeric Duverdier, donc qui travaille au Conservatoire des espaces naturels du 41. Pareil, bonjour.
Bonjour.
Et est-ce que vous pouvez vous présenter et donc quelles sont vos missions autour de ces fameux ENS?
Donc moi, je suis directeur du Conservatoire d'espaces naturels de Loire-et-Cher. Les espaces naturels sensibles pour le Conservatoire, en fait, il est impliqué sur 11 espaces naturels dans le département. Donc des espaces naturels, soit qu'ils gèrent en collaboration avec des communes, soit des espaces naturels qui peuvent lui appartenir aussi en gestion propre. Et puis parfois aussi, voilà, des accompagnements aussi de certaines collectivités, notamment Aglopolis, pour la mise en œuvre de la gestion sur certains espaces naturels.
Puis le dernier invité autour de cette table, c'est Vincent Guillard, donc directeur, c'est ça votre fonction,
responsable de l'entreprise Environnement 41.
Entreprise spécialisée, donc on va y revenir, dans le génie écologique, c'est ça?
Oui.
Donc messieurs, je me suis intéressé aux ENS parce que, on va pouvoir représenter le dispositif de manière plus générale, mais j'ai l'impression, en tout cas moi à titre personnel, que c'est une dénomination qui est assez peu identifiée auprès des publics. Est-ce qu'on peut représenter justement les différentes appellations, les différentes dénominations des espaces naturels qui sont sensibles, protégés? Je ne sais pas combien de termes il existe pour tous ces sites-là, mais voilà, est-ce qu'on peut refaire un petit peu la cartographie de toutes ces appellations, Dimitri?
Oui, en effet, donc les espaces naturels sensibles, c'est une compétence qu'ont les conseils départementaux hein, depuis de nombreuses années. Hein. En Loire-et-Cher, elle s'est illustrée par la réalisation d'un schéma directeur en 2009, donc la politique est vraiment mise en œuvre depuis 2009 dans le département. C'est en fait les espaces naturels sensibles, ce sont des sites qui sont labellisés par les départements. Donc ils peuvent recouvrir d'autres statuts aussi. Hein. On a des réserves nationales, on a d'autres sites, Natura 2000, mais les espaces naturels sensibles, c'est un ensemble de sites qui sont labellisés par le département, sur lequel le département va accompagner les porteurs de projets, les gestionnaires, les propriétaires sur ces sites-là. C'est pas une réglementation en soi, il n'y a pas de protection stricte liée à ce classement, c'est vraiment une labellisation, une mise en avant d'un réseau de sites. En Loire-et-Cher, 28 sites sont labellisés à ce titre-là.
Et donc, est-ce qu'on peut présenter déjà quelques exemples, alors peut-être les mieux identifiés sur le département de ces ENS?
Alors c'est toujours difficile hein, d'en choisir que quelques-uns. En Loire-et-Cher, la volonté des élus d'ailleurs, c'était de bien répartir sur l'ensemble du territoire. Donc on a 28 sites qui sont répartis à peu près sur le maillage du territoire loire-et-chérien. Donc le Perche, les grandes régions en fait naturelles qu'on connaît, hein, le Perche, la Beauce, les grandes vallées, la Sologne viticole. Donc on a, en Sologne par exemple, on a des étangs qui sont classés ENS, l'étang de Beaumont par exemple, à Nain-sur-Beuvron, l'étang de Miancé, l'étang de Malzonné, pardon, sur Meillancé. On a tout un réseau d'étangs qui sont soit communaux, soit associatifs. Après, dans le Perche, on va avoir des chemins. C'est une petite particularité en Loire-et-Cher, c'est qu'on a aussi des sites, c'est des espaces naturels sensibles qui sont linéaires, en fait. Ce sont des chemins qui sont labellisés. Le chemin des Trognes, qui est assez bien connu maintenant, à Bourcé. Voilà, piloté par, enfin géré par la Maison Botanique de Bourcé, d'autres chemins sur le Temple. Et puis après, on a sur la Vallée de la Loire, on a aussi des sites, hein, les terrasses de la Loire, hein, qui sont gérées par le Conservatoire d'Espaces Naturels. On va avoir d'autres sites, l'île de la Folie sur Chaumont-sur-Loire. Et puis après, on a d'autres sites, le Marais des Rinceaux sur Molineuf. Donc voilà, tout ça, c'est à l'image du Loir-et-Cher, des paysages, des enjeux du Loir-et-Cher. Et puis on a aussi une particularité, on a des sites géologiques. que le conservatoire connaît,
bien aussi. Ouais.
Voilà, donc le patrimoine naturel, c'est aussi ça, c'est la faune, la flore, les milieux et la géologie.
Donc vous le disiez, Dimitri, c'est une compétence départementale. Qu'est-ce qui fait que ces espaces sont plutôt pilotés, gérés par les départements plutôt que par les communes sur lesquelles elles sont situées? C'est une question de vision d'ensemble du territoire pour agir à peu près à égalité, hein, entre guillemets, sur l'ensemble du territoire et de la même façon sur les différents espaces.
Bah, en fait, c'est la loi, hein, tout simplement. En 1985, la loi a dicté que c'est les conseils départementaux qui sont compétents en matière d'espaces naturels sensibles. Donc c'est cette collectivité-là qui a pris cette compétence-là. Après, chaque département la met en œuvre, la décline en fait en fonction de ses enjeux, de ses objectifs. En Loire-et-Cher, on s'est essentiellement appuyé sur les communes et les partenaires associatifs. Depuis très peu de temps, depuis 2020, le département s'est lancé aussi dans les acquisitions foncières, mais sinon, avant, depuis 2009, c'était surtout appuyer les associations comme le Conservatoire d'Espaces Naturels et les communes qui sont propriétaires et gestionnaires, donc accompagnement technique et financier. Donc c'est la loi qui dit que ce sont les conseils départementaux, et après, chaque département
a quand même une marge de manœuvre. Voilà. Pour travailler en collaboration avec notamment des entreprises, des associations. Question aux invités, peut-être notamment Aymeric qui va pouvoir répondre à cette question. Comment sont gérés, puisque vous en pilotez vous-même, comment sont gérés les ENS? Quelles sont les politiques, les partenariats qui sont mis en place? On commençait à l'évoquer avec Dimitri. Comment ils sont gérés, ces espaces?
Alors l'idée pour le conservatoire premier, on va dire, souvent ces sites en fait existaient parfois avant la politique, la mise en place de la politique du département au niveau des espaces naturels sensibles. Donc l'émergence, souvent, c'était d'abord la volonté pour le conservatoire, en tout cas, de préserver un espace. Ça s'est fait, on va dire, de deux manières. Soit parfois, quand l'opportunité pouvait se présenter, c'est de l'acquisition des fois foncière, parce que finalement, quand on est propriétaire pour une association comme le conservatoire, c'est un moyen, une garantie, on va dire, durable de préserver sur le très long terme ces espaces naturels. Et puis parfois, on a eu aussi des opportunités de travailler avec les propriétaires ou avec des communes qui étaient propriétaires. Si je prends par exemple l'espace naturel sensible des ponts de Roxon, donc qui est situé sur la commune de la Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine. La commune est propriétaire d'une à peu près des presque deux tiers du site. Le conservatoire est propriétaire, on va dire, peut-être d'un quart. Et puis après, il y a encore l'association foncière qui avait également aussi des terrains sur ce site-là. Et l'idée était de tisser des conventions, finalement, avec les partenaires, que ce sont la commune et l'association foncière, pour s'engager, on va dire, les uns les autres à une préservation sur le long terme du site. Et puis après, est venue effectivement des collaborations avec le conseil départemental, donc qui a identifié un certain nombre de sites, dont celui-là, et derrière un accompagnement financier du conseil départemental notamment, mais aussi technique, hein, puisqu'il y a aussi des échanges techniques aussi sur le devenir du site, et pour que tout le monde se mette d'accord aussi, et une projection, on va dire, sur les travaux à réaliser sur ces sites-là, on fait ce qu'on appelle un plan de gestion, qui est souvent projeté sur une dizaine d'années, et où c'est un document de travail, mais aussi de concertation avec les différents partenaires, et puis c'est un tableau de bord, en tout cas aussi pour les salariés du conservatoire, où tout est envisagé et prévu, on va dire, en termes et d'intervention, mais également de temps à investir sur le site, et de valorisation aussi. Là, par exemple, sur ce site, en ce moment, on travaille sur un parcours découverte de ce site-là. Et donc voilà, ça, c'est des choses qui étaient notées dans le plan de gestion comme action à réaliser, et puis qui ont pu se mettre en place au fur et à mesure. Et pour le coup, le conseil départemental nous accompagne aussi sur ce projet-là. Donc voilà, après, c'est le travail de collaboration. Voilà, il est issu après du travail de terrain, bien souvent, des relations aussi humaines sur le terrain qui font que dans le temps, on arrive à, depuis pour ce site-là, les années 2000, plus de 20 ans, on arrive à maintenir les milieux naturels et parfois aussi à remettre en place du pastoralisme qui est parfois disparu de ces régions-là.
Le département a acquis du foncier, il y a certains terrains qui appartiennent à des associations, à des propriétaires. Comment on travaille en bonne entente avec toutes ces entités différentes là? Ça se passe bien globalement?
Bon, globalement, ça se passe bien. Après, il y a parfois des situations après qu'il faut savoir après gérer, parce qu'il y a bien sûr les partenaires, je dirais, un peu institutionnels ou propriétaires privés. Puis après, il y a aussi les usagers, parce qu'il y a aussi des sites voilà, où on va avoir d'autres usages et d'autres pratiques. Et ça, c'est des choses qu'il faut aussi arriver à gérer avec, avec les représentants, on va dire, de ces associations-là. Et parfois, il n'y a pas toujours de représentants. Si je prends la problématique des fois du motocross, un peu anarchique qui peut des fois se faire sur certains sites, et ben, c'est vrai qu'il faut essayer de limiter des fois ces pressions-là, ou en tout cas, il ne suffit pas forcément de dire c'est interdit. Des fois, ça nécessite aussi de voir à une échelle plus grande pour essayer de trouver peut-être d'autres sites de substitution qui sont peut-être moins sensibles pour que les gens puissent continuer des fois à pratiquer sans forcément que ça impacte le site en question. Donc voilà, c'est des démarches d'animation de territoire finalement hein, quand on travaille sur des espaces naturels de ce type-là. Et voilà, et aujourd'hui je pense qu'on a un réseau où on se connaît aussi tous un petit peu.
Un peu installé, oui.
Et où il y a voilà, un passif de travail et des habitudes de travail qui sont assez bien rodées.
Juste pour compléter ce que disait Aymeric, en effet, hein, pour le département, c'est important de travailler sur ce réseau de sites. Alors, les partenaires associatifs, historiquement, se connaissent bien. Parfois, c'est plus distendu. Enfin, en tout cas, les relations, les liens sont moins évidents avec les communes qui sont parfois un peu seules, des communes rurales qui n'ont pas forcément les compétences en matière de génie écologique, de travaux sur ces espaces-là. Donc là, on les accompagne, nous, les services techniques du département, on accompagne un peu plus les communes sur ces aspects-là. Mais ce qui est important, c'est ce réseau, de fédérer ce réseau. Alors c'est pour ça qu'à travers la communication que le département peut faire, c'est montrer aussi qu'il y a un réseau de sites, en fait, quand on vient sur un ENS. Pour ça que la plupart, et même j'ai envie de dire tous les ENS, en fait, à l'accueil d'un espace naturel sensible, il y a un panneau qui montre la carte du Loir-et-Cher avec l'ensemble des sites. Pour montrer aux visiteurs qu'en fait, c'est un réseau de sites et que voilà, juste à côté ou un peu plus loin, il y aura un autre site qui peut permettre cet accueil et de se balader sur ces espaces naturels.
J'ai la carte justement sous les yeux qui est issue de votre site internet des conservatoires 41. Alors j'en compte 33, vous m'avez dit 28, alors on doit être au milieu à peu près, peut-être que voilà, mais oui.
Alors là, c'est la carte des sites globales du conservatoire, c'est-à-dire que ouais. Sur la carte de ces sites-là, il y a des sites qui sont labellisés en ENS,
d'accord.
Mais il y en a d'autres qui sont des sites que le conservatoire préserve okay, indépendamment, on va dire, de la politique.
Qui ne sont pas labellisés, mais qui font partie d'une même politique, on va dire.
Là, dans cette carte-là, finalement, il y a peut-être les 11 ENS dont je vous parlais tout à l'heure, et puis après, s'ajoutent encore d'autres espaces naturels sensibles au niveau du département, qui impliquent des fois d'autres acteurs, d'autres associations, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Bien encore en plus, j'ai envie de dire, de cette carte-là.
Et donc, je m'appuie sur la liste qui figure à côté de la carte. Donc, on trouve effectivement, comme vous commenciez à l'évoquer, Dimitri, des carrières pour l'aspect géologique, des îles, des marais, des pelouses, des prairies, des talus. Alors, quelle est du coup la question, c'est quelle est la surface, de quelle surface minimum jusqu'à quelle surface maximum se déploie et se labellise un espace naturel sensible? Parce que quand je vois pelouse, je me dis c'est un petit carré qu'on me propose.
Alors, je peux répondre, sans doute qu'on est trois à pouvoir répondre à cette question-là, mais je vais commencer, mais je laisserai
ça marche.
Alors, c'est pas du tout un critère, la surface pour un espace naturel sensible, pour labelliser un espace naturel sensible, c'est pas un critère. Alors, bien sûr, une fois qu'on a dit ça, on va pas non plus préserver 200 mètres carrés, encore que les associations peuvent le faire, mais en tant qu'espace naturel sensible, il y a deux éléments importants à prendre en compte pour labelliser un site, c'est donc la préservation du patrimoine naturel et aussi l'accueil du public. Donc on imagine bien que plus le site est petit, plus c'est délicat d'accueillir du public. Donc la surface n'est pas un critère, mais toute proportion gardée, c'est le cas de le dire. Okay. Après, pelouse, en effet, ça, pelouse pour le grand public, on voit tout de suite le golf ou le gazon entretenu. On n'est pas du tout sur ces milieux-là, sur ces enjeux-là.
J'imagine bien.
On est vraiment sur des cortèges de plantes qui sont très spécifiques sur sol calcaire, sur sol maigre, et avec des enjeux écologiques très forts. Et on en retrouve en effet sur les vallées de la Cisse en particulier, mais aussi sur le Loir. On retrouve ce genre de milieu où, entre autres, pour le grand public, on parle souvent de ce sont des milieux favorables aux orchidées, par exemple. D'autres espèces comme les anémones pulsatiles, des choses comme ça peuvent se développer.
Vous voyez des tulipes aussi sur un site de Blois, ce qui est sur la butte de la SNCF, c'est ça ?
Alors ça fait partie après des sites, je dirais, qui sont pour le conservatoire plus dans l'accompagnement. Alors,
d'accord.
C'est pas labellisé en espace naturel sensible, mais c'est vrai qu'on essaie aussi de quand il y a des stations comme ça qu'on peut retrouver notamment en cœur de ville, de pouvoir travailler avec les gestionnaires, alors là que sont la SNCF, pour préserver en fait ces stations-là sur le long terme. Et ça nécessite des fois d'être réactif, on va dire, dans l'accompagnement qu'on peut avoir, notamment quand il y a des fois des stratégies d'élimination de ligneux avec des herbicides ou des produits qui peuvent impacter. Bon, on est là aussi pour essayer d'orienter un petit peu les choses et de faire en sorte que l'habitat qui semble convenir en tout cas aux stations de tulipes soit pas impacté on va dire sur le long terme et qu'on maintienne un petit peu ces espèces là.
Je me tourne vers Vincent justement puisqu'on parlait de travailler sur ces sites là. Quelle est la difficulté pour une entreprise comme la vôtre et pour les associations, pour les partenaires que vos camarades autour de la table évoquaient, de travailler sur des sites qui sont donc protégés, à haute teneur environnementale, avec des contraintes, j'imagine, très fortes. Comment le travail s'organise pour une entreprise comme la vôtre sur ces sites ?
Bien, c'est-à-dire que je dirais que ce n'est pas une contrainte, parce que c'est justement plutôt un challenge, c'est essayer de trouver des méthodes qui conviennent le mieux au milieu et qui permettent de faire des travaux dans de bonnes conditions. Alors, c'est vrai que ça dépend des types de sites. Si on prend des zones de marais, les premières interventions, généralement, c'est avec nos mains, puisque d'abord, il faut sonder le milieu, voir un petit peu comment on peut intervenir. Après, on est une entreprise de travaux. Les donneurs d'ordre ont des budgets. Et donc, il faut aussi avoir quelque chose qui soit réalisable économiquement. C'est de trouver des solutions qui soit adapté à l'ensemble de ces exigences. Donc on va travailler d'abord manuellement, je prends par exemple sur un site avec des affleurements rocheux, des dénivelés, où il faut restaurer une pelouse. Donc là c'est pas avec une tondeuse à gazon, c'est des pelouses sèches où il y a des ligneux qui poussent dessus. Donc là on va intervenir tout simplement avec des débroussailleuses, des tronçonneuses, et comme c'est des milieux spécifiques où faut que ça s'enrichisse le moins possible en matière organique, on va devoir exporter la matière. Donc c'est trouver des solutions avec des machines, avec des techniques et des personnes qui sont formées à ce genre de travaux pour répondre à ces exigences-là.
Donc on utilise le moins possible, j'imagine, des outils, des gros outils, des outils motorisés, etc. On se met à genoux, on met les pieds dans l'eau, on gratte, tout ça.
Voilà, alors c'est à l'échelle, ça peut arriver,
ouais.
mais si on est sur des surfaces importantes, il faut trouver donc on va adapter de la mécanisation. Donc les premiers outils simples, ça va être de la tronçonneuse, de la débroussailleuse et des personnes. Et ensuite, ça va être d'adaptation d'engins mécaniques issus de matériel qui viennent de l'agriculture, du forestier, mais qu'on va aménager, adapter pour qu'ils puissent intervenir sur le milieu avec le moins d'impact possible. Donc ça va être limiter la pression au sol, ça va être avoir des outils qui sont... qui vont être en huile hydraulique végétale, au cas où il y a un souci. Voilà, donc c'est un petit peu... En gros, c'est du matériel agricole qu'on a adapté, qu'on a fait évoluer en concertation avec le conseil départemental, les conservatoires, voilà. Donc c'est jamais... Il n'y a jamais d'outils type pour faire un chantier. Il faut toujours réfléchir. Et puis, des fois, on le fait avec un... on a prévu de le faire avec une machine un peu plus importante et on finit par le faire à la main parce que... les conditions. En plus, on est sur des créneaux météo précis, enfin des créneaux de saisonniers.
Oui, il faut travailler l'automne et l'hiver, j'imagine.
Voilà, on travaille automne-hiver principalement. Et puis, généralement, les conditions météo, elles sont pas super. Donc, c'est un métier qui se fait plutôt jeune.
Ouais, il pleut de moins en moins l'hiver, c'est une bonne. ça va.
Et il faut être passionné par ce qu'on fait, et c'est aussi des tâches. On travaille dans la nature, dans des cadres qui sont super, mais c'est aussi des tâches répétitives et qui sont pénibles physiquement.
J'imagine.
Donc voilà, ça se situe entre le boulot du paysagiste,
ouais.
Le boulot du bûcheron, de l'agriculteur et du forestier ou de l'entreprise de TP. Mais
il faut combiner tout ça de manière harmonieuse et respectueuse.
avec une sensibilité environnementale très importante.
J'imagine, Dimitri, au conseil départemental, que vous êtes assez vigilant avec les partenaires, justement, à qui vous demandez d'intervenir sur tous ces sites.
Oui, comme je disais, un département, depuis assez peu de temps, en fait, on est propriétaire de sites naturels. Et en effet, on fait intervenir des entreprises. Et ce qu'évoquait Vincent, c'est très important. C'est déjà la sensibilité de l'entreprise, le regard que peut avoir le chef de chantier sur le... Voilà, parce qu'il y a les préconisations, il y a les cahiers des charges. Mais après, quand on est sur le chantier, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur des gens qui ont cette sensibilité, cette fibre, cette connaissance et cette expertise en fait,
on
de
voit
génie bien écologique.
Quand Vincent parle, effectivement, qu'il y a ce regard assez précis sur les attentes de la part des financeurs et des commanditaires par rapport aux contraintes du milieu naturel. Ouais.
Et puis ils viennent aussi, ils pallient parfois aussi le défaut de filière. Hein. J'ai un exemple là, concret, parce qu'on parlait de machines spécifiques et tout ça. Les roselières, par exemple, la gestion des roselières, autrefois, ça pouvait, voilà, elles étaient focardées, coupées parce que le produit était utilisé dans nos campagnes. Maintenant, on a assez peu de développement de cette filière-là. Et du coup, on fait appel à des entreprises qui ont développé, enfin voilà, l'entreprise Environnement 41 a développé une machine spécifique qui permet d'intervenir dans ces milieux qui sont un peu complexes et qui permettent d'exporter la matière. Donc c'est important aussi d'avoir ces partenaires, ces entreprises qui développent des techniques, qui vont se creuser un peu la tête pour pouvoir répondre à pour pouvoir faire du génie, ce qu'on appelle du génie écologique, en fait.
Vous avez, alors peut-être pas au sein de votre entreprise propre, mais il y a une part de recherche et développement, on va dire, pour employer un terme un peu multinational, pour essayer de regarder ce qui se fait ailleurs, ce que les nouvelles avancées technologiques, et puis aussi, du coup, de l'autre côté, des outils, toujours essayer de trouver des outils, des manières de faire qui sont respectueuses, etc. Il y a un peu des deux, un truc très techno et un truc un peu décroissant, retour à la terre.
Ouais, c'est vrai que le côté recherche
et développement, ouais.
Et développement, c'est des choses qui existent dans les grands groupes.
Ouais.
On avait fait une démarche, je prends l'exemple parce que sur un essai sur la lutte contre une espèce invasive qui est la juicie. Et on avait expérimenté un truc et on avait demandé on avait sollicité un crédit impôt recherche. On avait juste fait ça pour voir et pour avoir un accompagnement sur un investissement de matériel. Et on nous a dit, ouais, votre projet est très très bien, mais il faut que vous ayez des chercheurs et il faut que ce soit des gens qui soient ingénieurs. Donc j'avais dit, malheureusement, on n'a pas d'ingénieurs, ce serait bien. On essaie juste d'être ingénieux et on va continuer comme ça. Après on a un réseau d'entreprises. Alors, il y a un syndicat professionnel qui s'appelle le syndicat des entreprises du paysage, qui est reconnu au niveau de l'échelle nationale. Donc ça va des gens qui posent des piscines à des gens qui vont tailler des haies, mettre des gazons, et il y a une petite filière qui est dedans, qui s'appelle le groupe de travaux en génie écologique, et on est 6-7 entreprises à représenter le syndicat et essayer de faire la promotion de ces nouveaux métiers. Et puis après il y a l'AG Bio, qui sont d'autres structures qui fédèrent l'ensemble des syndicats professionnels. Donc ça va être des bureaux d'études, ça va être des entreprises de travaux. Les entreprises de travaux, on n'est pas très très nombreux, il y en a une ou deux par région, il y a des structures associatives aussi. Et donc là, c'est des moments où on échange vraiment, on va faire des visites chez les collègues, on échange sur nos techniques, et c'est comme ça qu'on avance. Puis après, si vous êtes ici, ou si vous êtes en Savoie, ou en Camargue, les contraintes sont différentes. Mmh. Mais on a une vision qui est... en gros, c'est bosser pour la biodiversité, et la préserver en développant des techniques. Donc c'est vraiment un réseau d'échanges qui est plutôt bien. Et puis il se fait aussi il se fait surtout dans les endroits où on travaille, avec les gestionnaires, et puis c'est comme ça qu'on fait avancer les choses.
Il y a quelques sites géologique, pardon, sur les ENS. J'aimerais qu'on s'y... On est assez... c'est facile de s'imaginer les sites de faune et flore avec des espèces très spécifiques de plantes, d'animaux à préserver. Les sites géologiques, c'est quelque chose qui est un peu plus abstrait peut-être pour les visiteurs. Quelles sont les spécificités géologiques de quelques-uns, hein, peut-être on n'est pas... Ouais, enfin, ils sont pas si nombreux que ça, mais quelles sont les spécificités géologiques des ENS en Loire-et-Cher?
Ouais, bah, je vais commencer, puis Aymeric, je te laisserai poursuivre plus techniquement, parce que je ne suis pas géologue du tout. non, en effet, il y a quelques sites géologiques qui sont apparus dès 2009, hein, dans le fameux schéma dont je parlais, parce qu'il y avait une dynamique aussi. Il y a des géologues en Loire-et-Cher qui ont prôné en fait la valorisation de ces sites-là, donc essentiellement des sites communaux. Donc on a la réserve naturelle régionale, hein, géologique de Pont-le-Voir, qui est un site majeur qui a été réaménagé assez récemment et qui permet vraiment une visite très interactive, ludique pour tout type de public. Il y a des sites peut-être plus, on va dire, confidentiels, mais qui ont par contre un patrimoine très intéressant, hein, sur le Falin, sur le calcaire de Beauce, donc les conservatoires. Hein, la réserve, c'était le CDPNE, hein, qui est gestionnaire de ce site-là. D'autres sites géologiques sont gérés par le Conservatoire d'espace naturel. On en a aussi dans le Perche, avec des grès roussards. Donc ça, c'est des choses qui, localement, je pense, parlent. La roche parle aux gens. Le grès roussard, ils ont construit des maisons avec ça. Et ben là, il y a quelques carrières qui restent. Et donc, c'est intéressant de montrer ce patrimoine-là, qui fait partie intégrante, en fait, du support à la vie aussi, aujourd'hui.
Ouais, je ferai aussi le lien que le département en fait de Loire-et-Cher est avant tout aussi un département avec une diversité géologique. Et si aujourd'hui on a une diversité finalement aussi d'habitats et de milieux, notamment si je prends, on va dire, l'exemple qui vont peut-être parler à tout le monde entre la Sologne et la Beauce, on a aussi une géologie et une histoire géologique très différentes, qui a été liée, hein, dans les processus. Mais aujourd'hui, on a la faune et la flore, on va dire, qui s'installent sur ces milieux-là, est aussi très différente parce que on passe d'un milieu, des fois plutôt, on dit basique, à des milieux acides. Et donc la végétation et la faune et la flore qui est associée, va être assez différente. Et donc, à travers, on va dire, on peut parler de réseau, hein, finalement, de sites géologiques aujourd'hui qui est valorisé, enfin préservé et valorisé. C'est aussi ça qu'on veut montrer. C'est aussi cette diversité-là dans les paysages et qui est liée aussi à non, ce patrimoine géologique. On a certains sites aussi assez singuliers parce que certains sont devenus aussi des références. Par exemple, si je prends la carrière du Buisson Sabotier, le site du Buisson Sabotier à Landes-le-Gaulois, on a finalement un site qui présente des phénomènes en fait qui se sont passés à l'ère quaternaire, de gel et de dégel, qui ont créé finalement des mouvements dans le sol qui sont aujourd'hui visibles. Bon, ben ça, c'est ces coupes-là finalement, qu'on puisse, on va dire, les préserver, mais surtout les montrer au public et en préserver un peu leur caractère scientifique, ça, c'est vrai que c'est des choses qui font partie du patrimoine commun et qui est important, on va dire, à préserver et à valoriser. Donc c'est aussi pour ça que, petit bout par petit bout, en fait, que ça soit le conservatoire ou que ça soit les autres partenaires associatifs ou le conseil départemental, finalement, tout le monde s'est mis d'accord pour se dire qu'il y avait un fil conducteur à conserver dans la préservation et la valorisation de ce patrimoine géologique.
Est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait d'autres ENS qui finissent par être classés sur le territoire? On a fait le tour, il en reste à découvrir, entre guillemets, c'est pas le bon mot sans doute, mais...
C'est une politique qui est active et qui se nourrit aussi des apports de nos partenaires. Donc c'est en effet des possibilités, hein, de labelliser de nouveaux sites. Hein. À savoir qu'en 2009, il y avait 25 sites labellisés. Et depuis 2009, vous voyez, maintenant, on est rendu à 28 sites. Donc en effet,
ça peut arriver.
Il y a une grille de sélection. On travaille avec nos partenaires, avec les scientifiques sur la véracité, si vraiment ce site-là mérite qu'il soit labellisé espace naturel sensible, hein, je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait du patrimoine, des enjeux écologiques, il faut aussi pouvoir accueillir le public. Tout ou partie, hein, l'idée c'est pas par exemple sur 20 hectares d'espace naturel sensible de mettre les 20 hectares à la disponibilité du public, mais en tout cas accueillir le public. Donc c'est ces éléments là et puis après c'est une réflexion commune qui permet de labelliser un espace naturel sensible, hein. Il y a un comité de suivi spécifique, et puis après c'est les élus du département qui qui adoptent la labellisation du site. Donc, en effet, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Ouais.
Ça marche. et puis, pour cette dernière partie de l'entretien, je voulais qu'on parle de la valorisation, justement, vous en parliez, Aymeric, de ces sites. Je voyais sur le site des conservatoires que vous aviez des approches, notamment un peu plus ludiques, touristiques. On parle d'espèces game, par exemple. Alors, c'est des espèces de petits jeux de pistes, ou en tout cas qui se rapprochent d'une manière assez ludique de valoriser, de montrer ces sites au public, hein, un public varié, familial, tout ça.
Oui, bah après la difficulté, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais l'idée, souvent quand on essaie, on va dire, de porter à connaissance du public sur les atouts d'un territoire, on essaie aussi de toucher un maximum de public, et donc tous les moyens des fois sont bons. Ça va du parcours découverte avec des panneaux comme on le voit souvent, à aussi l'usage et l'utilisation des outils numériques informatiques qui se développent, avec aussi dans l'air du temps aussi les chasses au trésor, on va dire, qui se font qui passent de site en site en essayant de retrouver les petits coffres forts qui sont cachés sur un site. Et c'est vrai que c'est une manière un petit peu d'emmener le public, on va dire, sur une itinérance qui passe d'un espace naturel à l'autre.
Le but étant de les amener d'un site à l'autre, comme disait Dimitri au début, effectivement, et de présenter à chaque fois, j'imagine qu'on voit la carte du Loir-et-Cher et des ENS devant, ou presque chaque ENS.
C'est ça, et puis ça permet aussi des fois d'emmener les gens, d'orienter le public aussi un peu comme on le souhaite, parce qu'il y a aussi des caches qui se font un peu de manière, qui peuvent se faire par monsieur tout le monde, et parfois à des endroits aussi qui ne sont pas toujours idéaux sur les sites, parce que ça crée aussi des fois de la fréquentation. Donc tout ça, il faut aussi arriver un petit peu à le cadrer, et parfois on préfère... que quand quelqu'un décide de le faire, on le valide d'une part, et puis on préfère les mettre nous-mêmes finalement, pour qu'on s'accorde tous aussi sur les espaces qui sont possibles en termes d'accès, de ceux qui le sont peut-être moins ou qui sont plus sensibles en tout cas. Dans la démarche de Space Game, là c'était la date anniversaire des 30 ans du Conservatoire d'Espaces Naturels de la région Centre, qu'on a souhaité effectivement faire quelque chose plus à une échelle régionale. Et donc, certains sites du Conservatoire de Loir-et-Cher, en fait, sont intégrés dans ce...
C'est à l'échelle régionale, ce n'est pas qu'à l'échelle départementale.
Et donc, certains sites du département de Loir-et-Cher sont intégrés dans ce grand jeu, on va dire, à l'échelle régionale. Et ça permet au public de découvrir aussi peut-être des secteurs où ils n'iraient peut-être pas spontanément. C'est vrai que la vallée de la Loire, la vallée du Cher drainent pas mal de tourisme. La Petite Beauce, c'est un peu moins. Et parfois, c'est montré aussi qu'il ne faut pas oublier des fois que d'autres territoires ont aussi des richesses. Et les inviter à aller aussi sur ces territoires-là.
Vincent, il faut conjuguer dans vos plans de travaux entre la volonté donc de rendre un site viable, etc., tout en permettant l'accès au public. C'est une contrainte forte dans vos projets, ou finalement ça se fait assez naturellement, assez facilement?
Pour reprendre un petit peu l'historique, les premiers travaux qu'on a fait sur les ENS il y a 20 ans, c'était de la restauration.
Ouais.
Et donc c'était des choses un peu plus lourdes, et puis après il y a eu l'acquisition de nouveaux sites où il y a eu une phase restauration, donc des travaux lourds, et après une phase d'entretien, et ensuite il y a eu toute la partie ouverture au public qui s'est faite depuis quelques années, où là notre métier a évolué. On a fait beaucoup de balisage sur des circuits, pose de panneaux, et après c'est de l'entretien de sentiers ou choses comme ça qui peut être fait.
Dimitri, vous vouliez...
Oui, juste pour préciser par rapport à ce qui vient d'être dit sur la valorisation. En effet, c'est un aspect important pour le département, hein, que ces sites-là soient connus, reconnus et puissent accueillir du public. Alors tous ne le permettent pas encore, et puis certains ça sera... plus délicat, ça sera plus de la conduite, de la visite en accompagnement avec un accompagnateur spécialisé. Mais pour avoir, parce que c'est vrai qu'il y a de l'argent public qui est mis sur ces espaces-là, hein, sur les suivis, les études et la gestion, l'entretien. Et on a voulu au département avoir un retour, parce que c'est difficile d'évaluer la fréquentation de ces sites-là. On le sent quand on va sur un site, ah tiens, celui-là, il y a pas mal de monde, celui-là, bon, on ne voit jamais personne. Bref, comment on peut faire pour évaluer ça? Parce que ça fait partie de l'évaluation. Hein, de cette politique publique. Et donc on a mis des compteurs en fait autonomes pas sur les 28 sites, mais sur une répartition assez homogène des sites plus confidentiels, comme je vous disais tout à l'heure, et des sites où on sait qu'il y a déjà un attrait. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a ces compteurs qui sont mis sur les sites. Et ça nous permet de... Voilà, on a en moyenne 100 000 personnes sur ces sites-là, sur ces 16 sites qui sont dotés. 100 000 personnes qui fréquentent les espaces naturels sensibles.
Donc avec ça, quand même des grosses disparités, du coup, entre certains sites, évidemment.
Oui, il y a des sites... Il y a des disparités.
Ça tend à se niveler, peut-être, du coup, au final.
Alors, bah, après, c'est l'effort qu'on va faire de communication avec nos partenaires sur certains sites qui sont peut-être encore un peu méconnus. Et là, on sait qu'il va falloir aussi qu'on communique peut-être plus davantage. Mais... On peut être étonné aussi sur certains chiffres où des sites, ils nous semblaient assez éloignés, soit d'une agglomération, soit d'un réseau. Voilà. Et en fait, ils fonctionnent très bien parce que la promenade est plaisante. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir ce genre de retour. Et donc, voilà, tout ça pour dire que ces sites-là, il y a une grande attente quand même de la population. Et on l'a vu d'ailleurs, hein, suite, on a passé deux années un peu difficiles où les déplacements étaient restreints. Et le pic sur les trois ans de comptabilité de l'accueil du public, le pic de comptabilité qu'on a eu, c'était le 21 mai 2020. Enfin, juste à la sortie du confinement généralisé où là, on a eu des scores...
Les gens avaient envie de sortir, voilà, et de revenir vers
la nature.
On
est que ça répond aussi à une demande de la société.
Donc pour conclure, on parlait d'accompagnement. Le conservatoire propose régulièrement des accompagnements, des sorties guidées sur ces sites.
Ouais. Sur l'ensemble de nos sites, on a une cinquantaine de manifestations dans l'année, alors qui combinent et des sorties nature, donc avec voilà une découverte du patrimoine naturel, avec des thématiques variées d'un site à l'autre et au cours de l'année. Et puis après, on propose aussi durant l'hiver aussi des chantiers participatifs, donc qui sont et une manière finalement de toucher le public. Mais en les rendant actifs, qui comprennent aussi la démarche finalement de pourquoi on intervient, parce que parfois les travaux des fois divers ne sont pas toujours compris, on va dire, hein, par les riverains ou autres. On se dit, c'est vrai, quand on fait des grosses actions des fois de broyage, on peut modifier le paysage de manière assez drastique. Et puis après, quand on voit on va dire la nature qui reprend, la végétation qui revient après au printemps, on comprend des fois un petit peu mieux la démarche. Et quand les gens finalement y participent en termes d'action, alors là on est plutôt sur du rail manuel, hein, de coupe de ligneux ou autre, ils comprennent voilà un petit peu mieux, on va dire, ce que nécessite finalement une démarche de préservation d'un site sur le long terme. Alors des fois ça se fait aussi avec des partenaires, des chantiers écoles, des lycées agricoles, etc., où il y a aussi un côté pédagogique. On intervient aussi en termes d'échange de services entre des chantiers, et on intervient aussi en animation vis-à-vis de ces publics-là, des scolaires notamment. Et puis parfois ça se fait aussi avec des associations de jeunes, notamment l'association de jeunes de Vineuil, qui est chantier jeunes de Vineuil, qui intervient chaque année pour le conservatoire et auquel nous on passe aussi un peu de temps pour leur faire découvrir aussi le patrimoine naturel. Donc voilà, c'est aussi des échanges de services qu'on fait tout au long de l'année. Donc là, le programme est déjà bien, bien chargé pour la saison. Voilà, les saisons, avec des animations. Donc il y a à peu près, je pense, dessus, il doit y avoir 50 à 70% de ces animations-là qui vont se passer sur des espaces naturels sensibles.
Très bien, merci. Est-ce que, messieurs autour de la table, vous avez quelque chose à rajouter ? C'est la fin de notre émission.
Oui, juste inviter vos auditeurs à vraiment aller voir sur la page du département aussi, hein, ou taper tout simplement nature41.fr sur n'importe quel moteur de recherche. Vous arriverez sur les pages où vous avez tous ces espaces naturels sensibles. Et puis, il y a un petit livret aussi qui est sorti depuis quelques années, qui est disponible dans les offices de tourisme sur les espaces naturels sensibles. Il est aussi téléchargeable sur notre site. Voilà, pour découvrir découvrir ces sites qui n'attendent que vous, en fait.
Que le public, pour découvrir l'ensemble de ces sites qui sont, on l'aura compris, très variés et proposant une découverte assez large de la faune, flore et de la géologie du territoire. Merci Vincent Guillard d'Environnement 41, merci Émeric Duverdier du Conservatoire des espaces naturels du Loir-et-Cher et Dimitri Multeau du Conseil départemental du 41 pour votre présence. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de La Chose Commune. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Merci.